Boubouroche, partie 3. Cré, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu! Ainsi s'acheva dans une volée de blasphèmes la rêverie qui, depuis un instant, tenait Boubouroche immobile, les jambes allongées et le pouce à cheval sur lui entrebâillé de la porte. Au coup de poing qu'il abattit à même sur le marbre de la table, parmi le sursaut effaré des soucoupes, le garçon qui se crut appelé accourut. « Monsieur Désir, m'en mettez, rien du tout. » Mais dans le même temps, « Oh, si, qu'est-ce que je vous dois ? Un franc vingt ?» Boubouroche paya et sortit. Dehors, il faisait un froid vif, une belle gelée, qui tout de suite lui planta ses crocs aux oreilles. Le cadran éclairé d'une station de voiture marquait 10h-15, et le boulevard, empli d'un grouillement vivant, suait à perte de vue, sous un ciel semé d'astres, l'éternelle jeunesse de Paris. « Cré, nom de Dieu !» réitéra Boubouroche, qui était resté 5 minutes plongé dans la contemplation d'un étalage de bouchons à la vitrine d'un tonnelier. « Cré, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu !» Il en revenait toujours là, et c'est encore là qu'il en revint, quand il se trouva planté au bord du trottoir, comme un cierge, en face de la maison de sa maîtresse, à se demander ce qu'il allait faire. Montrait-il ? Certes, il en doutait, mais en supposant que pourtant il en trouva l'énergie, que ferait-il ? De quoi ? Ne serait-il pas capable, dans l'aveuglement de la colère, si Adèle en effet le trompait ? Depuis qu'il avait eu le malheur de tuer une nuit d'un coup de poing, hein, pas grand-chose, qu'il avait demandé l'heure avec une insistance déplacée, Boubouroche se méfiait de sa force. Il avança pour franchir la chaussée, un pied qu'il ramena en arrière aussitôt. Ses mains, soulevées jusqu'à ses tempes et tremblées, un moment dans le vide, dirent l'excès de son indécision. Et doutant, redoutant, cramponné à ses affres, ensemble avis des malades d'anxiété, il s'enformait en son éternel nom de Dieu, tandis que des gens se retournaient, mis en joie à la vue de cet ivrogne grognon qui jurait tout seul dans la rue. À 5 pas en avant de lui, les tramways de Saint-Ouen glissaient sur leurs rails en hurlant de lamentables plaintes. Ils se succédaient de minute en minute et d'une extrémité à l'autre du boulevard jusqu'à la place du Château d'Eau, indiquée dans l'éloignement d'un bouquet d'étincelles pressées, ils échelonnaient leurs larges prunelles disparates. Soudain, alors que Boubouroche commençait à reprendre confiance, songeant qu'il avait 8 années vécu dans l'ombre même d'Adèle et qu'enfin, si aveugle fut-on et si sourd, oh tonnerre de Dieu ! Par 2 fois, précipitamment, la petite tache blême de là-haut s'était éteinte, puis rallumée, puis rééteinte et rallumée encore, comme si 2 corps se pourchassant eussent passé entre la croisée et la lampe. Alors, il sembla à Boubouroche qu'une main le prenait à la nuque, le soulevait, le lançait à travers le boulevard au hasard des fiacres comme une balle. Le même élan affolé qui l'avait transporté d'un trottoir à l'autre, sans que seulement il s'en fût rendu compte, le poussa, le monta jusqu'à la porte d'Adèle, où il se trouva tout à coup, seul dans la solitude éclairée de l'escalier, ne sachant ni ce qu'il faisait là, ni comment il y était venu. Les oreilles lui chantaient vêpres, et une brûlure lui mordait le visage. La cuisson sèche d'une apoplexie qui se prépare. Il prit son temps, sonna enfin. 10 secondes qu'il compta s'écoulèrent, puis comme il avait négligé de tambouriner sur la porte son petit rappel coutumier, de l'autre côté du panneau, la voix d'Adèle s'éleva, demanda doucement « Qui est là ?» C'est moi, dit-il. Elle ouvrit aussitôt. Sur le demi-jour du vestibule, que noyait le bleu incertain de la tulipe de verre suspendue au plafond et où brûlait une étoile de gaz à ras de bec, elle apparut, souriante, charmante de jeunesse et de belle humeur. Elle portait une pesante jupe de velours frappé, gardée après la promenade du tantôt par paresse et de la manche de sa matinée. Pompadour, aux nœuds mauves, défraîchis un peu, sortait de son bras sa main fine qu'elle présentait grande ouverte au shake-hand de son ami. « Ah, il est tard, je ne comptais plus te voir. » Elle ajouta, « Je pianotais en attendant l'heure du dodo. » Et Boubouroche, qui avait encore dans l'oreille le lourd bourdonnement de silence emplissant le puits de l'escalier, pensa, « Elle ment, oh, quelle coquine !» Pourtant, par la porte restée entrepoussée du salon, il distinguait une partition grande ouverte dressée sur le pupitre du piano entre deux bougies qui flambaient. Il passait le seuil de la pièce quand « Regarde-moi donc, fit Adèle !» Elle venait à un pas de distance derrière lui et brusquement, dans le cadre penché d'une glace, elle avait aperçu la face congestionnée de Boubouroche, pareil à une brique hérissée d'où jaillissaient des yeux en noix. « Quelle figure as-tu donc ce soir? T'es malade? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a, répondit Boubouroche, que tu me trompes. » Adèle parut ne pas comprendre. « Je te trompe? Comment je te trompe? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Je veux dire, reprit Boubouroche avec une grande fermeté, que tu te moques indignement de moi, que tu es la dernière des filles et qu'il y a quelqu'un ici. »
Quelqu'un ?
Oui, quelqu'un.
Qui ?
Quelqu'un. Ils se regardèrent longuement.
Imbécile, murmura Adèle. Le mot fut une nuance, guère plus une intention qui effleura à peine le mince et dédaigneux sourire de la jeune femme.
Ce fut tout. Elle vint à la cheminée, y prit la lampe et l'apporta à Boubouroche.
« Voici de la lumière !»
Boubouroche, qui se décontenançait à l'imprévu de tant de sérénité et chez qui pointait, grandissait, s'élargissait en taches d'huile la peur d'avoir fait une gaffe, fit un léger recul et, d'une voix qui capitulait d'autant plus qu'elle s'insurgeait davantage, déclara « Oh, pas de comédie, cocu, mais pas dupe, ma fille !» Comme Adèle, la lampe haute, le visage inondé de clarté et les prunelles en verre luisant, le poussait, l'acculait à des explications, faisant la dame qui veut n'avoir pas entendu et répétant « Tu dis ? Tu dis ?» Il rompit carrément les chiens. « Enfin, ma chère amie, voilà, moi, on m'a raconté des choses. » « Des choses ?» Le mot n'était pas dit que déjà, il était une arme aux mains d'Adèle, un stylet d'une pointe plus aiguë que celle d'une aiguille à broder, dont elle piquait au vif, lardait comme une escalope, la conscience accessible au remords du pauvre et tendre Boubouroche. Des choses. Ah, si on lui avait conté des choses à ce monsieur, et pas un seul instant, l'idée ne lui était venue d'en appeler à la vraisemblance, aux 8 années d'une liaison sans un nuage, d'un passé vécu au grand jour, entre les 4 murs d'une maison de verre. Délicieux.
Si bien raillait-elle que je suis à la discrétion du premier chien coiffé venu. Un monsieur passera qui dira « Vous savez, Adèle, elle vous trompe, et je paierai les pots cassés, et je tiendrai la queue du poil. »
Elle estimait que tout de même, Celle-là était un peu violente, et Bouburoche, en son fort intérieur, fut bien forcé de confesser qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Astucieux, il songeait à se tirer d'affaire avec un mais à deux tranchants qui, à la fois, l'eût absous et livré, et lui eût permis de battre en retraite par des honneurs de la guerre. L'irascible jeune femme ne lui en laissa pas le temps. D'un tel coup de clairon, elle lui jeta « Assez !» Il comprit instantanément l'inanité d'une discussion plus longue. Surtout qu'Adèle, exaspérée, lui cuisait le nez du verre surchauffé de la lampe. Lorsqu'elle lui en eut, à la fin, introduit de force entre les doigts le col tout suintant de pétrole, en lui demandant s'il n'avait pas fini de faire l'âne pour avoir du son, tout fut dit. Il ne douta plus qu'il eût commis un impair, et il se fit petit, le pauvre, mais petit, humble et chétif, dans l'espoir d'acheter son pardon. Voyons, fit-il conciliant, voyons. N'ayant quitté le collège qu'après la quatrième, il savait un petit peu de latin, pas énormément, gros comme ça, juste assez pour être en état de risquer une citation quand le besoin s'en faisait sentir. Ainsi, on va pas se brouiller, que diable, ajouta-t-il, errare humanum est, quoi. Mais Adèle, oui ou non, fit-elle, est-ce que tu me prends pour une enseigne? Je te dis de prendre cette lampe. Bouburoche, dompté, prit la lampe et d'aller voir. Tu connais l'appartement, je pense. J'ai pas besoin de t'accompagner. Il y eut un silence. Oh, sois pas méchante, dit enfin Bouburoche, de qui les yeux de phoque suppliaient, tout rond de contrition et pleurait sous la clarté tombée des dessous de l'abat-jour. Est-ce que c'est de ma faute à moi si on m'a collé une blague? Pardonne-moi, et n'en parlons plus. Adèle s'étonna. Tu sollicites mon pardon à cette heure? Ce n'est donc plus à moi de mériter le tien par mon repentir et par ma bonne conduite. Va toujours, nous verrons plus tard. Comme au fond, t'es plus naïf que méchant. Il est possible, pas sûr pourtant, que je perde, moi, un jour, le souvenir de l'odieuse injure que tu m'as fait faite. Mais j'exige, tu entends, j'exige que tu ne quittes cet appartement qu'après en avoir scruté, fouillé, l'une après l'autre, chaque pièce, et visité jusqu'au placard. Ah, je te fais des infidélités. Je cache des amants chez moi. Eh bien, cherche, mon cher, et trouve. Elle dit et lui tourna le dos. Maintenant, assise au piano, devant la partition interrompue, elle en feuilletait paisiblement, à croire que rien ne se fût passé, les pages qu'avait chambardé le coup de vent de la porte ouverte. Bouburoche, penaud, demeurait les pieds soudés au plancher. Un dernier coup d'œil qu'il lui lança, il la reconnut impitoyable, enfermée en sa volonté comme en une tour. Il pensa, ben allons, et le front bas, l'épaule ronde, accablé sous le ridicule dont sa maîtresse châtiait si durement sa faute, il passa dans le cabinet de toilette.